Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est l'histoire donc de deux personnes qui discutent un soir dans une soirée, donc ils ont chacun un verre de champagne à la main et ils discutent. Et l'un qui dit à l'autre, moi j'en ai marre de faire ce que je fais, faut que je change de métier, ça va pas. Il dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, je livre des pizzas. Je livre des pizzas. Il dit, bon, puis ça va pas. Bah non, vous comprenez, c'est dur, les pizzas, elles sont toutes chaudes, elles sentent bon, je peux pas y toucher, je peux à peine les sentir, je peux pas les goûter, non, vraiment, c'est trop dur. Ah bon? Elle dit, vous savez, moi, je suis, alors l'autre lui répond, vous savez, moi, je suis un peu comme vous. Ah bon, parce que vous livrez aussi des pizzas? Il dit, non, moi, je suis gynécologue.
L'intro du jour, rupture sociale, solitude, froid, clochard, SDF, sans-abri, errance, mendicité, dénuement, faim, 115, alcool, drogue, prostitution, violence, mort, viol, amitié, chaleur humaine, secours, regard de l'autre, disparition, foyer, abri, communiqué, groupe, commodité, intimité, subi, repas, descente aux enfers, longue et lente remontée, peur, isolement, exclusion, animaux de compagnie, refus, débrouille, survie, démerdan zizic. Vous l'aurez compris, car vous êtes très vigilant, très intelligent et très vigilant. La preuve, vous nous écoutez. Nous parlerons ce mois-ci de la vie dans la rue. En introduction de son livre « Les naufragés avec les clochards de Paris », Patrick Desclercq, ethnologue et psychanalyste, se pose la question du meilleur terme à employer pour parler de cette population. Il y répond avec le sens de la provocation qui le caractérise, je les appelle clochards. Parce qu'il faut bien leur donner un nom. Celui-là n'est en rien meilleur que les autres, sinon qu'il renvoie à des images partagées en France, partout le monde. Il fait référence au passé et à la longue durée de sa répétition. Mais s'il en est besoin d'autres, SDF, sans-abri, routard ou grand exclu feront tout aussi bien l'affaire. Il est à ce propos des querelles d'école. D'aucuns voudraient instaurer de subtils distinguos, hiérarchiser, ranger, botaniser, combattre enfin à l'aide de spécieuses catégories la sourde et angoissante anomie de ce milieu. On aimerait pouvoir donner corps à l'informe, appréhender l'évanescent, qu'il suffise de savoir que le clochard, c'est toujours l'autre et jamais soi. De même que l'on ne peut percevoir sa propre odeur, ce sont les autres qui sentent. Pour en savoir plus sur la vie à la rue, nous recevons à présent Madame Pauline Deveau, directrice de l'association Accueil Service.
Au sommaire aujourd'hui, des lectures d'écrits qu'on s'est donné du mal à les trouver du point des mots. Des musiques entraînantes s'entraîner dans le tempo, un narvalo désopilant, épilé et sans pile, une petite cuisine aux saveurs vagabondes, un micro-trottoir du plan grand froid dans la rue, une interview qui met de la chaleur au cœur, au corps et encore, une minute du pôle sur le pouce. Pour vous servir aujourd'hui, Vivien, Sandrine, Rémi, Béatrice, Timothée, Jean-Roger, Stéphane, Yacouba, Adia, François.
La goumestine. Cette maladie peu dangereuse peut provoquer des arrêts cardiaques, surtout chez les personnes âgées. Elle se manifeste très souvent chez les supporters de football que leur équipe ont perdu. Les symptômes sont le stress pendant le match, la transpiration à grosses gouttes même quand il fait froid. Souvent, les personnes atteintes de cette maladie tremblent beaucoup. Pour éviter cette maladie, il faut toujours supporter la bonne équipe qui gagne tous les matchs. Pour plus de précautions, il est conseillé aux personnes âgées de se rendre au, de ne pas se rendre au stade pour suivre le match. Il est préférable qu'ils se rendent dans un centre de santé pour suivre le match. En cas de Goumenstein, il faut se rendre le plus vite possible au centre de santé le plus proche de chez vous pour que le médecin puisse vous prescrire de la Goumenstinaldine. Pour toutes autres informations sur cette maladie, veuillez me contacter tous les jeudis matin à la Maison de la Santé de 9h30 à 11h30.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
Nous venons d'entendre une chanson de Georges Brassens, excusez-moi, j'ai un petit oubli, chanson pour l'Auvergnat. Nous recevons aujourd'hui Madame Pauline Devaux, directrice de l'association Accueil Service.
Bonjour madame, c'est quoi Accueil Service et quelles sont vos missions officielles et officieuses s'il y en a?
Officieuse, il n'y en a pas, mais les missions accueil-service, avant tout, c'est une association d'aide aux personnes en grande précarité qui accueille en journée autour d'un café pour essayer d'accompagner ces personnes-là vers la réinsertion en leur offrant des services comme des douches, une domiciliation, un petit déjeuner, une consigne pour leurs affaires. Et on a des locaux à Évreux et à Vernon.
Comment se passe une journée type dans la rue?
Ça, c'est très compliqué parce que je ne suis pas dedans. Je suis pas... On suppose que les personnes qui vivent à la rue passent énormément de temps à déménager, entre guillemets, à, re... à rechercher un carton, un lieu sécurisé, un lieu sécurisant, à essayer de trouver le meilleur moyen, surtout en hiver, pour être au chaud. Donc, et le matin, donc, on les incite à venir dans les accueils de jour pour avoir un petit déjeuner chaud. Et souvent, c'est le seul repas de la journée, entre ça et les Restos du Cœur le midi, et essayer de trouver soit un squat, soit en appelant le 115, trouver un hébergement.
Comment intervenez-vous alors auprès des gens qui vivent dans la rue ?
Alors, par les maraudes. Ce qu'on appelle une maraude, c'est des équipes en binôme avec des bénévoles qui le soir sortent et vont vers ces personnes qui sont sans solution d'hébergement.
Comment se retrouve-t-on à la rue ?
Ça aussi, c'est une question compliquée. On se retrouve là. Alors, je ne sais pas. Là, je peux vous dire ce qui nous est rapporté quand on leur pose la question. Souvent, c'est une rupture, une cassure autour d'un divorce, un décès, une séparation, une expulsion. Il y a toujours quelque chose qui, comme on dit souvent à l'association, on ne naît pas dans la rue. Hein. On a forcément un logement, on a forcément une famille. Et il s'est passé quelque chose qui a cassé le vase de cristal, qui a fait qu'on n'a pas pu le reconstruire.
Auprès de quel public exactement intervenez-vous ? Y a-t-il un public cible, sexe, âge ou...
Il n'y en a pas. Il y a pas de... On les met souvent professionnellement dans des cases parce que, je vais prendre l'exemple du mineur, on sait qu'il faut appeler l'aide sociale à l'enfance. Une personne âgée, on sait qu'il y a des dispositifs auprès des EHPAD et des hébergements pour personnes âgées. Mais au niveau de l'association, c'est aller vers toutes les personnes qui se retrouvent à la rue et sans solution de logement ou d'hébergement.
Pourquoi vous sollicite-t-on en priorité ? Pour rompre l'isolement, pour les repas ou pour l'hygiène ?
C'est un tout. Alors, le plus souvent, les personnes, quand elles poussent la porte, notre technique d'approche, notre technique d'accueil, c'est de dire « Bonjour, je m'appelle Pauline, est-ce que vous voulez un café ?» Et c'est la technique, c'est de dire « Toute personne a quelque chose à donner, a quelque chose à valoriser. » Si la personne pousse la porte de l'accueil de jour le matin à 8 heures, c'est que elle a besoin soit d'un bout de pain, hein, on revient à la chanson pour l'Auvergnat, pour manger, soit elle a besoin d'un peu de chaleur, soit elle a besoin parce qu'il est isolé chez lui, soit il est en recherche d'emploi. Il y a toujours une raison et charge pour le bénévole qui l'accueille ou les salariés d'essayer de faire émerger une demande et de pouvoir y répondre. Alors, on ne répond pas, on ne fait pas d'hébergement, on n'est pas restaurant, on y répond en orientant vers le partenaire qui est le plus à même de régler ce problème-là.
Est-ce que beaucoup de personnes vivent-elles dehors ? Et est-ce qu'elles trouvent quand même un chez eux à la rue ?
Alors, les grands bilans du Secours catholique, de la Fondation Abbé Pierre estiment, alors c'est un chiffre qui bouge très peu, qui a très peu bougé depuis 10 ans, qu'il y a entre 120 et 150 000 personnes en France à la rue. C'est un chiffre qui est déjà énorme. Et la rue, c'est pas forcément des personnes qui... Au départ, je ne pense pas que ce soit un choix. Je pense qu'on y arrive suite à cette cassure-là. Et comme disait De Clercq, c'est pas moi qui sens mauvais, je me sens pas, c'est le voisin qui sait que je sens mauvais. Et faute de solution, faute de place, faute de douche, faute de personne à qui parler, faute de solidarité, ben, je vais prendre un carton et je vais me mettre dans une entrée d'immeuble parce que c'est encore là que l'être humain a quand même besoin d'un certain nombre de sommeil par jour. Sur le département de l'Eure et sur Évreux, on n'en est pas à trouver des gens à la rue, mais quand vous allez à Paris, les portes de métro, les bouches de métro, il y a vraiment beaucoup trop de personnes et je pars du principe qu'une, c'est un de trop.
Les gens qui vous contactent, comment les dénommez-vous ? Sans domicile ou comment se font-ils appeler ? Parce que le terme actuellement employé, on dit SDF, mais bon...
Même SDF, c'est caduque. On dit sans domicile stable. C'est pas plus mal. C'est sans domicile stable, ça... Ça veut dire que c'est pas forcément le SDF sans domicile. Ça peut être une personne qui est en squat. Ça peut être une personne qui... à un hébergement ponctuel dans la famille, ça peut être quelqu'un à qui on aurait permis de dormir dans le couloir, c'est pas forcément SDF. Auprès d'Accueil Service, on aime bien le terme de clochard, parce que c'est vrai que ça renvoie à on sait ce que c'est qu'un clochard. Selon les programmes de financement, il y a sans domicile stable, il y a jeunes en errance, il y a jeunes avec des chiens, il y a gens du voyage, il y a migrants, demandeurs d'asile, primo-arrivants. Mais peu importe, on est nous dans cette précarité-là, il faut y répondre par une réponse humaine. C'est au-delà du logement, c'est accompagner, c'est insérer. Alors, on n'a pas vraiment de... En général, on les appelle par leur prénom. C'est plus simple.
Bon, à ces propos, nous avons promené notre micro à la rue et écoutons ce qu'ils nous ont dit.
Si vous aviez une baguette magique.
Ça serait un petit peu bête à dire, c'est que tout le monde soit heureux. Et tout le monde puisse bien vivre dans le monde où on vit.
Oula, oula. D'établir le contact avec d'autres, de faire en sorte qu'ils ne soient plus tout seuls. Qu'il y a un début de prise en charge, qu'il y a un début d'espoir, de changement.
Eh bien, un domicile pour tous ces gens-là.
On vous remercie beaucoup.
Un repas.
Oui.
Un repas. Et puis, un travail, ceux qui n'en ont pas. Et puis, aussi, un peu plus de sollicitations de tout le monde.
À les vêtir, les loger, les faire manger chaud l'hiver. Et leur donner un petit peu de réconfort.
Il n'y aurait plus. Il n'y aurait plus d'SDF. Que tout le monde ait un toit. Et un toit, de la famille, des proches. Quoi. Le bonheur pour tout le monde, mais bon.
Et que tout le monde soit égaux. Qu'il n'y ait aucune différence. Quel que soit le pays où on vit.
J'essaierai de faire construire un minimum de maisons pour qu'ils puissent vivre avec leurs chiens.
Oui, mais on leur donne un logement et puis un travail. Ceux qui peuvent travailler, parce qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas travailler, mais au moins un logement.
Je vais créer des logements pour eux. Par exemple, des magasins commerciaux pour travailler.
Rapidement, parce qu'on sait bien que plus on reste longtemps dans la galère, plus c'est difficile de s'en sortir. Donc je pense qu'il faut quelque chose, une écoute, une main tendue.
Votre réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter ?
Ça englobe bien toute la problématique d'aujourd'hui. Hein. Ça a commencé par qu'ils soient heureux. Je crois que le gros problème, c'est cette solidarité-là. Et elle ne doit pas, pour moi, s'arrêter qu'à leur donner un logement ou leur donner un travail. Il y a une des personnes interviewées qui disait c'est de plus en plus difficile... Quand on s'installe plus longtemps dans la rue, c'est en général, il faut vraiment les accompagner vers retrouver tous leurs droits sociaux, qu'ils aient la santé, qu'ils pas forcément trouver un travail. Hein. Je crois que c'est Coluche qui disait de l'argent leur suffirait, mais qu'on leur donne les moyens de vivre et pas seulement d'être sur un bout de carton en train de faire la manche. Mais vivre, ça englobe tout. Ça englobe la santé, l'hygiène, le travail pour ceux qui en veulent. Cette solitude, pouvoir communiquer avec les autres. Alors, il y a cette solidarité à mettre en place et qui est très présente en France. Je peux en parler parce que je suis d'origine étrangère et que je sais que ça, c'est quelque chose d'appréciable. Mais encore faut-il qu'il faut bien le répartir et pas seulement leur donner un emploi ou seulement leur donner un logement. Il faut vraiment les accompagner vers cette réinsertion. Excusez-moi.
Sur les médias, on entend souvent parler de maraudes. Est-ce que vous faites des maraudes et en quoi cela consiste-t-il ?
Alors, Accueil Service, depuis, alors je crois, 2005, fait des maraudes. Qui ont commencé petitement sur Évreux le soir. Aujourd'hui, elle est départementale. Donc, il y a des binômes avec des partenaires qui vont vers les personnes qui après 20 heures, hein, sont vraiment sans solution de logement ou d'hébergement, ou sont en squat, ou sont à la rue. Parfois, il y en a qui ont des logements et qui préfèrent marcher. Bon, il y a un problème autre que le logement, là. Les maraudes se déroulent en deux temps, dans l'après-midi, sur signalement du 115 ou de n'importe quel partenaire ou institution, c'est de signaler les personnes en difficulté sur l'espace public. Hein, ça peut être, il y a un monsieur qui a bu, qui a l'air complètement fou, là, à la porte du magasin, est-ce que vous pouvez venir faire une première évaluation avant d'appeler soit le 115, soit les pompiers, soit le 15. Et le soir à 20h, il y a des points fixes où ils savent qu'ils peuvent nous retrouver là, où on leur donne une soupe, une soupe et une petite sucrerie et un sac de couchage. Ce qu'on a constaté, c'est que ce qu'ils viennent chercher là, c'est pas la soupe. Ils ont pris le petit déjeuner à Accueil Service, ils ont déjeuné au Resto du Cœur. La soupe, c'est ce qu'ils viennent chercher là, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est qu'on leur tende la main et qu'on les écoute.
Avez-vous des gens qui ont un domicile, mais qui viennent fréquenter le milieu de votre association, et si possible, qu'est-ce que vous leur proposez ?
Alors, en journée, on a des gens qui sont entre guillemets locataires dans des appartements. Et souvent, c'est une question de moyens qui les amène là. Pour eux, c'est vraiment une question de moyens financiers. On a des familles qui n'ont pas de quoi laver le linge, qui n'ont pas de machine à laver et qui n'ont pas de quoi payer la laverie. On a des hommes qui viennent prendre le petit déjeuner avant d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter le café. Dis toujours, imaginez, moi quand je me lève le matin, limite je me réveille après que mon café est coulé, parce que comme ça j'ai pas besoin d'attendre. Il y a des gens qui à 8 heures attendent de prendre leur petit déjeuner avant d'aller travailler. Ça reste une question pour eux purement financière, et c'est d'autant plus violent.
Une question très, très dure à répondre. Comment peut-on sortir de la rue ?
Je crois qu'il faut qu'on tricote, alors c'est mon mot favori, on tricote avec chaque accueilli. La personne, quand on la reçoit, elle nous donne son sac, son baluchon avec tout dedans. Charge pour nous de travailler avec lui sur les priorités. Elles peuvent être sanitaires, le soin d'abord. Elles peuvent être le logement d'abord. Elles peuvent être... Parfois, c'est très simple. C'est un coup de fil à un parent d'abord qu'il n'a pas vu pendant 10 ans, qui peut réveiller les choses. Et c'est de l'accompagner pas à pas, d'être cette béquille qu'il a le droit de prendre, de ne pas prendre, de poser, de jeter, et de revenir la reprendre et de dire on va l'accompagner jusqu'au bout. Le jour où la personne nous dit j'ai plus besoin de vous, je peux faire, on est content. Et l'accompagnement pour nous, il est là. Il n'est pas juste donner un petit déjeuner, une soupe, c'est de dire comment on va tous ensemble pouvoir porter cette personne jusqu'à l'acquisition de ses droits.
Comment gérer les refus d'hébergement, par exemple la question des animaux ?
Alors, la question des animaux, elle est très grave pour moi, parce qu'on n'a pas de structure d'hébergement qui accepte les animaux. C'est quelque chose qui est posé, qui est reposé. Toutes les associations en parlent, même au niveau national, il y en a très peu qui acceptent ce public-là avec des chiens. Hein, ou d'autres animaux. Hein. Parfois, on a des rats. Ça, c'est une question qui est posée, sauf que moi, je ne fais pas d'hébergement, mais qu'il va falloir répondre. Ils répondent parce que voilà, quelqu'un qui appelle le 115 et qui dit, moi, j'ai besoin d'un hébergement, j'ai besoin d'un logement, et à qui on dit, parce que vous avez un chien, on ne peut pas. Alors que parallèlement à la maraude, ces gens-là sont capables de donner leur soupe au chien et ne pas en boire. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre ces deux choses-là.
Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui dorment dans la rue ? Est-ce un manque de moyens financiers ou...
C'est un manque de tout, je crois. Il y a un manque de moyens financiers, il y a un manque de construction, de nouveaux logements. Hein. On en a parlé, là, il y a eu un interviewé qui en a parlé. Et de logements adaptés. Et aussi du coût du logement, parce qu'aujourd'hui, on voit il y a dans certaines villes des logements vides avec des gens dehors, parce que ces gens n'ont pas les moyens de payer le loyer. Et on voit beaucoup, alors j'en connais pas beaucoup sur Évreux, mais aux frontières du département, quand on est limite en région parisienne, des gens qui arrivent et qui dorment, pour pas dormir dans leur ville et qu'ils ne soient pas repérés, mais qu'ils dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un travail. Donc, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les charges qui vont avec le loyer et tout ce qui va avec.
Que pensez-vous de réquisition de logements ? Réquisition.
Très bien. Je pense qu'il faut tout faire. Je reprends l'exemple après-guerre. Hein. On a connu à Évreux des gens qui ont vécu pendant des années dans des baraquements. Toutes les solutions sont bonnes, sauf que je pense que ça ne peut pas être que le logement. C'est un tout.
Y a-t-il des gens avec un logement et qui dorment malgré tout dans la rue ?
J'en connais pas. Qui traînent tard le soir dans la rue, qui vont marcher jusqu'à 2h du matin, qui vont ne pas avoir envie d'être enfermé, mais j'en connais très peu qui ont quand même un logement bien chauffé et qui préfèrent dormir dehors. S'il y a ça, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est squatté, c'est qu'ils ont peur, c'est qu'ils sont violentés, mais il y a forcément un problème quelque part.
Rencontrez-vous des personnes, des travailleurs, des retraités, est-ce que vous les rencontrez dans la rue et si possible, qu'est-ce que vous préconisez pour changer les choses ?
Alors, les travailleurs qui se retrouvent dans leur voiture à la rue, on n'en voit pas beaucoup, mais on suppose qu'il y en a. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être baisser le coût du logement, le coût du loyer. C'est peut-être, en parlant de solidarité, augmenter les aides qu'on pourrait leur faire. Respecter un certain nombre de lois dans certaines villes et donc construire plus de logements sociaux, voire très sociaux. Après, je pense que c'est des politiques qui nous dépassent, mais c'est des choses auxquelles il faudra qu'on pense rapidement pour y répondre rapidement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut que tous les acteurs aujourd'hui y réfléchissent pour y répondre sur du très long terme.
D'un point de vue pratique, notez-vous le nom des gens, prenez-vous leurs coordonnées ?
Oui. En accueil de jour et en maraude, parce que ça permet d'une équipe à l'autre de les connaître. C'est pas juste un nom qu'on note, hein, c'est une identité. C'est de dire, on a vu monsieur un tel, il est à tel endroit, et ça fait plaisir à la personne qu'on lui redemande pas nom, prénom, âge, profession. Ça permet aussi de pouvoir aller quand on est en lien avec les partenaires comme le 115 ou les financeurs ou les partenaires qui hébergent, de pouvoir aller dire, mais on peut vous attester que ce monsieur-là, ça fait tant de jours, tant de soirs qu'on le voit dehors successivement et ça fait tant de temps qu'il est effectivement à la rue et que c'est pas normal. Donc en tant qu'association, on a quand même le rôle d'aller au secours des personnes qui sont à la rue, mais on a aussi ce rôle qui, je pense, doit être dévolu à toute association, d'être témoin et de pouvoir aller témoigner de cette réalité-là. Si on ne va pas dire à nos financeurs, à nos partenaires, voilà les gens et dans quelle situation ils sont, qui va en parler ? Qui va aller dire à celui qui nous finance, et ben voilà, et comment lui montrer la pertinence du financement.
Comment intervenez-vous pendant l'hiver avec le plan Grand Froid et pouvez-vous nous expliquer ce plan et pourquoi ne pas en maintenir les moyens à l'année ?
Après, on parle de logique du thermomètre, ça c'est connu qu'on est plus sensible quand il fait froid, alors que il paraît qu'il y a pense que c'est vrai, il y a beaucoup plus de morts en été. L'alcool fait plus de morts en été que pendant l'hiver. Le plan grand froid, c'est des places supplémentaires, des moyens supplémentaires qui nous sont alloués par les financeurs pour pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes. Donc, par exemple, les accueils de jour sont ouverts le matin. Normalement, c'est que le matin jusqu'à 13h pour certains sites. Et là, c'est ouvert de toute la journée. L'hébergement hivernal pour accueil service, c'est 12 places. On passe à 14 places, quitte à mettre 2 lits de camp supplémentaires dans les chambres. C'est au lieu d'ouvrir à 18h, on ouvre à 14h. L'idée, c'est que le froid, qu'ils aient toute la journée, 24 heures sur 24, une prise en charge, un lieu où se chauffer, un lieu où aller se chauffer et ne pas se retrouver dehors.
Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne va pas bien, comment faites-vous vis-à-vis de cette personne ? Faites-vous appel aux pompiers ? Comment travaillez-vous au niveau de l'accès aux soins pour les gens qui en ont besoin ?
Alors, pour les personnes qui viennent à l'accueil de jour, qui vont pas bien ou pour la maraude, on a des techniques. C'est les salariés, les bénévoles sont formés pour et de voir est-ce que c'est juste. Alors je vais être trivial. On le met dans un coin quand il aura dessoulé, on verra. Ou non, là, il est vraiment pas bien, il faut appeler les pompiers. C'est professionnellement qu'on voit est-ce que c'est dangereux ou pas pour la vie de la personne. Et à ce moment-là, on appelle les pompiers ou on a des techniques pour le requinquer et voir si il peut repartir. Mais en général, c'est plutôt les pompiers qu'on appelle.
Est-ce que le droit au logement a changé quelque chose à la situation des personnes à la rue ? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des morts dans la rue ?
Alors, le droit au logement a quand même changé des choses puisque pour y participer de très loin, le DALO permet quand même d'avoir, ça a permis quand même de mettre en exergue toutes ces personnes qui ont effectivement fait des demandes de logement auxquelles on n'a pas répondu depuis 6 mois, depuis 1 an, et de relancer les choses et de faire des injonctions pour qu'ils aient droit à ce logement-là. Et limite, la préfecture fait une injonction à un bailleur pour qu'il ait un logement. Les morts de la rue, eh ben, ils sont morts. Alors, il y a une association qui s'appelle Les Morts de la Rue, qui les liste, qui fait des manifestations, qui essaye de parler de ça, sachant qu'il y en a tous les ans. Hein, sur le département de l'Eure, on en a eu 2, 3. On en a cette année pas encore. On croise les doigts. Après, je pense que la mort fait partie de la vie. Hein. Ce que moi j'aimerais, c'est pas parler de la mort dans les rues, mais c'est surtout que toutes ces personnes en précarité, en exclusion, puissent vivre et mourir dignement. Où que ce soit, mais dignement.
Enfin, pour conclure, où se trouvent vos locaux, les locaux de votre association ?
Alors, à Évreux, on a un accueil tout public qui se trouve avenue Foch, au 84, et on a un accueil pour les femmes et les familles qui se trouve à la Madeleine, aux 4 places Alfred de Musset.
Mais écoutez, nous vous remercions pour cette interview.
Merci.
Je rappelle votre association Accueil Service, et vous êtes Madame Pauline Deveau. Merci beaucoup.
Merci.
To everyone. This is the music, it's a song from Sierra Leone. It's a song for refugees. And this song has plenty of meaning, departed to refugees, well, like people that seek asylum. Like, for example, this song is explaining about our country, which our country have all we need, it's all what we have. But yet still, people are going out for seek for refugees, for things that happening to them, that they have security. I know in any country, people, the first thing, the priority of the government, you must have security. And when the life of the people are not secure, people going out for find security. So this is what it's all about, the song is trying to explain about. Because if you have security, you can have peace of mind in your country. But if you don't have security, that's all. So people living in their country with different reasons, being political reasons, or be personal reasons, or what people that have what they have to use an advantage, because it's Africa. Africa is, for example, like Sierra Leone, people that have money, people that have political influence, can do anything to the one that doesn't have more than, like the layman, for an example. So this song is all about, like, for example, what I'm being through in this country. Like, I leave my country, I demanded for asylum in France. So, like, always I'm being through, I should not be being through this because of I have no security in my country. And when you start stand up to say the truth, to stand for fight for your rights, you cannot have the privilege. You cannot have the privilege of saying one or two things that this is the truth. They can come after you, maybe put in the prison for life or trying to have you be embarrassed. So this song is have plenty of meaning, especially, like I said, have plenty of meaning to explain about what the song mean, you know. So I believe that for me not to say much, but to conclude and wrap everything up, the song is talking about asylum. Like, you know what is an asylum when people leave their country, seek an asylum for another country. The situation they're being through, what they have to eat, where they go to sleep, you know, all is constrained, like what you just interviewed the last. So I believe so. Before saying much, I thank you all and thanks much.
Alors, je vais tenter un très court résumé de ce que vient de nous dire Karim, parce que je pense que tout le monde aura compris que c'était une chanson des Sierra Leone Refugee All-Star, et que Karim lui-même est de Sierra Leone, et qu'il nous expliquait que ça avait énormément de sens différent, cette chanson, pour tous les réfugiés et les demandeurs d'asile, et que la principale raison pour laquelle les gens ont à fuir leur pays, même s'ils ont déjà beaucoup de choses là-bas, c'est les questions de sécurité. Je crois qu'il a beaucoup insisté sur ce thème de la sécurité.
Eh bien, on remercie Karim et on remercie Vivien pour l'explication. Enfin, et donc, nous allons passer à un texte sur la rue de Vanessa, Donc je vous le lis. Je suis dans la rue, je suis un peu perdu. Les regards que l'on me porte n'ouvrent pas de porte. Des regards fuyants, des regards d'égarement, des regards agaçants. Je reste avec mes copains qui suivent le même chemin. Comment en sortir pour en partir de cette spirale qui est infernale? Cette chaîne sans fin pour ne plus manquer de rien. Pour enfin avoir un toit et enfin être chez soi.
Et nous écoutons maintenant la recette de la petite cuisine d'Ozone.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer pour l'émission, en rapport avec notre sujet de ce jour, des mendiants au chocolat. Le temps de préparation est de 15 minutes. Le temps de cuisson est de 0 minute. Les ingrédients pour 20 mendiants sont 5 grosses barres de chocolat noir fondant ou au lait ou blanc. Le fondant aura tendance à être le plus fluide que le blanc et donc plus malléable. Ensuite, 20 cerneaux de noix, 20 noisettes décortiquées, 20 amandes émondées, entre 40 et 50 petits raisins secs. De préférence blanc pour l'esthétique, mais aussi pour le goût. Préparation de la recette, des petits raisins secs, des amandes, on va préparer tout ça, poser sur la table, ouais, c'est bon. Donc, la préparation de la recette. Préparer une surface froide destinée à recevoir les mendiants.
Il y a du vent.
Un marbre est l'idéal, mais vous pouvez aussi utiliser une surface quelconque que vous installerez sur des blocs de congélation au moment voulu.
On se met sur le bitume ou pas ?
Si la surface est poreuse, recouvrez-la d'une feuille de papier aluminium beurré. Mais pas trop, sinon, quand vous démoulerez les mendiants, il restera des traces blanches sous le chocolat. Bon, nous allons commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc, il faut faire fondre.
D'abord casser le chocolat.
Casser, exact. Oui. C'est exact, j'avais oublié, bien sûr, oui. Casser le chocolat.
Hop.
Deux. Une grande dextérité. 5 grosses barres, donc.
Pour la suite de la recette, c'est très important.
Alors, faut casser tout en petits morceaux pour que ça fonde plus rapidement.
Parce que nous n'avons pas de bain-marie.
Eh oui, Marie, elle est partie en vacances.
Nous allons vous faire en fait. Nous n'avons pas de bain-marie.
Hein. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas de casserole.
Est-ce qu'on fait, on le met sur un radiateur?
Non, je sais pas.
Mettre, malheureusement, au micro-ondes avec un peu d'eau.
Donc en fait, on va quand même faire une espèce de bain-marie, vu que le micro-ondes peut servir à faire un micro.
Pas tout à fait, Rémi, parce que là, nous allons mettre le chocolat, enfin l'eau dans le chocolat, alors que le bain-marie...
C'est le chocolat dans l'eau.
Voilà, voilà, c'est ça, exactement.
L'ordre, c'est l'ordre.
Bon, eh bien voilà, donc nous...
Donc je vais en courant au micro-ondes.
Donc pour la suite, lorsque le chocolat sera complètement fluide, il faudra mettre la casserole hors du feu. Et on n'a pas de casserole. Là-bas. Donc à l'aide d'une cuillère à soupe, il faut dessiner une première série de 5 ronds d'environ 4 ou 5 cm de diamètre sur le support. Non, peut-être pas. Avant que le chocolat ne durcisse. Alors oui, donc le chocolat est donc fluide. La casserole a été mise hors du feu. Ah mince. Bref, pendant que notre ami François prépare à l'aide d'une cuillère à soupe, il va faire une première série de 5 ronds d'environ 4 ou 5 cm de diamètre sur le support. Avant que le chocolat ne durcisse, il faut incruster des fruits secs sur chaque rond ainsi formé. C'est en rond, oui, ça oui. Bah oui, c'est les mendiants, c'est connu.
Ou alors à
2
cuillères comme quand on fait la
pâte à soupe. 4 à 5 cm. Enfin, tu peux le faire à 4,2 cm et 5,7 cm.
Donc,
pendant que notre ami François prépare et met le chocolat en diamètre sur les prépare pour les mendiants, donc nous avons François Etal. Car c'est son boulot, en fait, il était boulanger avant. Enfin, ou charcutier, je ne me rappelle plus. Donc, comment,
c'est pareil.
C'est pareil. Donc, comment François et notre amie Béatrice
sont professionnels et font ça avec dextérité. Donc je vois que les petits, ils incrustent les fruits secs sur chaque rond ainsi formé. Mais il ne faut pas mettre forcément beaucoup de fruits secs. Vous pouvez mettre une amande, une noisette et, ou deux ou trois raisins.
Ah, vous avez raison.
Et on recommence l'opération jusqu'à ce que la casserole soit vide. Voilà. Donc là, pour l'instant, nous avons les professionnels qui œuvrent. Pendant que moi-même, je vous explique, cite...
Avec perplexité.
Sagacité.
Nous œuvrons avec perplexité, je crois.
Non, c'était moi qui dis avec perplexité et sagacité. Donc nous avons les professionnels qui... Mais c'est fantastique. On va avoir des vrais mendiants. On ne sait pas combien ça va rapporter, mais enfin... Donc... Donc nous allons... J'observe pour voir si tout se passe bien. Pardon, ça se passe bien en cuisine ?
Oui.
Pardon ?
Oui.
Ça se passe bien en cuisine ?
Oui, chef, oui.
Oui, Rémi.
Bon, continuez, mais soyez délicat tout de même. Hein.
Oh.
Et précis. Avec perplexité peut-être, mais... Bon, apparemment... Oui, c'est impeccable. Je vois que il n'y a pas trop, il ne faut pas trop surcharger les mendiants de fruits secs.
Ouais.
Ce n'est point la peine de surcharger trop les mendiants de fruits secs.
Alors, on va leur mettre une petite noisette. Ils n'en avaient pas ceux-là quand même.
Ah, les noisettes. Heureusement que Béatrice a pensé aux noisettes.
Voilà.
Mais elle pense à tout, de toute façon.
Ouh.
Enfin, si, il le faut bien.
Oui.
Bon. Donc, François et Béatrice œuvrent avec sagacité, perplexité. Exprimez-vous un peu.
Pourquoi perplexité ?
La perplexité sur. Alors moi je serais effectivement d'avis.
Non, c'est avec dextérité. Là, nous alors, sommes en train d'étaler le chocolat pour faire des petits ronds.
C'est ce qu'on appelle le support du mendiant.
Voilà, c'est ça. Et avant qu'il ne refroidisse, on plante dedans.
Et il faut se dépêcher parce que là, le chocolat commence à durcir un petit peu. Mais bon, on va s'en sortir.
Conte. Saviez-vous pourquoi le singe ressemble à l'homme? Autant jadis, le singe alla voir le bon Dieu et lui demande à être comme l'homme. Dieu lui dit, oui, mais peux-tu demeurer 100 jours dans une case? Oui, répond le singe, vraiment je le peux, je le jure, bon Dieu. Alors Dieu l'enferma, donc, dans une case comme convenu. Au matin du 99e jour, le singe regarda à travers d'un petit trou et vit des merveilleuses fleurs, des mangues mûres, des régimes de bananes, le bleu du ciel, une belle étendue d'eau, une belle lumière bien dorée, des branches qui balançaient de tous les sens. Alors, de toute sa force, le singe défonça la porte et dit « Le monde s'embellit alors que moi je suis en prison. Pas question. Tous ces mouvements de dehors m'invitent à la fête. J'y vais. » Il ne finit pas sa monologue et le voilà dans le grand air pour vivre libre comme tout le monde. Voilà pourquoi il est resté à mi-chemin entre l'homme et l'animal.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, mais cette fois pour de vrai, et les fêtes sont terminées. La descente est difficile, la pente est raide et la terre est basse. La goutte blanche à 100 degrés a fait son effet et la réalité reprend sa place. Le narvalo est toujours dans le coma alors qu'il n'a rien bu. D'ailleurs, il est tout sec. Pour votre santé, ne buvez pas trop de gouttes blanches à 100 degrés ou alors avec 5 fruits et légumes par jour et en marchant au moins une demi-heure. De plus, évitez d'attraper la maladie des bébés. Allongé en forme d'hexagone devant le terril secret sucré salé mais néanmoins populaire, on retrouve Yodinde avec moulmou, doudure, fantomate et alerte tombale ainsi que le narvalo. La fine équipe a été victime d'une sournoise attaque d'autodéfense du terril à base de popo, popop, et de liqueur de chicon sans sucre. Dans le TSSSMNP 2000 version 2, les terrils quoi, on retrouve Bob Reynard et sa famille à peu près dans le même état, victime d'une sournoise défense d'auto-attaque de réveillon, sans repas, volontairement infligé.
J'ai la gueule doux, de bois dur.
Tout mou sur moi mou, glisse mou.
Oh, ouf, j'ai fait un très beau rêve étrange et pénétrant, mais surtout étrange. Mon papounet mangeait du pain d'épices avec Jean-Claude Van Damme. Tout le monde était content. On a mangé, on a bu, la peau du ventre bien tendue. Le Père Noël a distribué des ananas, puis on a écouté les sardines en mousse. Je crois que je ne sais plus.
J'ai le même rêve doux, étrange et pénétrant dur.
J'ai fait le même rêve mou, étrange et impénétrable mou, parce que moi mou, j'ai un kawé mou.
C'était un merveilleux rêve enchanté, avec mon époux chéri Bernard-Henri Narvalo, PHN.
Ce rêve m'est passé au-dessus. Je suis peut-être un peu trop proche du sol et terre à terre, mais j'en ai marre de jouer dans cette série. Vivement qu'on réveille Narvalo et que les scénaristes passent à autre chose.
Il est vrai que ça commence à faire long. Il est grand temps de quitter le Nord. Faisons apparaître un nouveau personnage pour débloquer la situation.
Bonjour, je m'appelle Jacques Pervert, poète pépère, avare et hacker de porte à code chantée. Que puis-je faire pour vous ?
On veut d'où que tu décodes la porte dure.
Chante mou tes poèmes mou, pour décoder mou la porte mou.
Ah, je peux commencer par mon plus grand succès, le chat caca. Mettons-nous dans l'ambiance.
En tant qu'amoureux des animaux, Jacques Pervert s'installe accroupi de trois quarts debout couché en chien de fusil de faïence, la tête au nord et les sud au cou. L'auditoire est subjugué.
J'ai entendu chanter Arlette Dombasle. C'est pas une chanson scatophéline d'un poète approximatif qui va me faire sortir de mes gonds. De plus, le code a changé. N'oubliez surtout pas la 27e lettre de l'alphabet, le P persan.
Persan, comme le cri du chat caca.
Mouah.
Si c'est comme ça, je sors mon atlas illustré couleur des digicodes des Hauts-de-France préfacé par Jean-Louis Borloo. Il y a trois zoos dans Borloo et beaucoup d'âges de zoos.
Ok, j'insiste pas, j'ouvre la porte.
Tout le monde se précipite avec précipitation. Roulade, cascade, parade, samba et défilé. Jean-Paul Belmondo, pyrotechnie, référencé et hologramme des stars. Trop tôt disparure. Inside in situ du terril. Poupette s'est badigeonnée de rouge à lèvres magiques. Elle se transforme en sanglier des Ardennes qui grommelle.
Un renard et un sanglier, on se croirait dans une fable de La Fontaine. Moralité, dans la paix, on forge les armes et dans la guerre, l'on s'en sert.
C'est ta femme doux, ce porc du.
Je mou ne comprendrai mou, jamais mou vos critères de beauté mou.
Les gars, je vous jure que ce n'est pas son état naturel. Moi, ça me dérange. Ça me dérange pas, mais elle fait peur aux gosses. Elle a essayé d'en bouffer. Deux, je sais que j'ai merdé, mais s'il vous plaît, help, help.
Autant je peux pas réveiller mon papa par magie, mais autant je peux désanglifier Poupette, si tu le veux vraiment. Par contre, juste un bémol, ce n'est fiable qu'à 97%. Si elle doit garder des gènes sangliers, tu préfères quoi ?
J'avoue être sensible à son groin et à son odeur qui me rappelle ma maman. Avec un peu de chance, je ferai fortune en truffes.
Alors, ok, tape-moi là, check pour la désanglification à 97%. Avec conservation naturelle 100% bio de l'odeur et du groin truffier. Mais d'abord, donne-moi le rouge à lèvres pour réveiller mon papounet.
Que dit-elle d'où, cette grosse truidure ?
Moi, mou, je comprends, mou. J'ai fait des études mou, de littérature cochonne, mou. Option sanglier, mou.
Dis-nous ce qu'elle dit d'où, au lieu de te vanter dur.
Elle l'a mangé, mou.
Oh, rage, au désespoir !
Elle en a encore plein le groin. Un baiser de sanglier, façon crapaud princier, pourrait peut-être décomatifier le narvalo.
J'ai fait un cauchemar horrible. J'embrassais un sanglier. J'espère que je n'ai pas attrapé la maladie des bébés marcassins. Où qu'est-ce qu'on est ? Ça pue là-dedans. On dirait le nord, ou alors il y a un sanglier dans le coin.
C'est pas un rêve doux, c'est le nord dur.
Si c'est pas un rêve, recommatifiez-moi tout de suite. Je veux pas voir ça.
Bon ben, si est réveillé, je ne m'attarde pas. Je retourne à Fort Boyard auprès des miens.
Magnifique ! Quelle joie immense de retrouver mon BHN à moi toute seule. Ça me donne envie de chanter.
Retiens-toi encore un peu, l'épisode n'est pas fini. Il nous reste peut-être quelques auditeurs. Je dois encore procéder à la désanglification à 97% de poupettes. Allez, à trois, tous ensemble.
1, 2, 3.
Sur cet insoutenable suspense digne d'une fin de saison de Famille Formidable, cette scène indescriptible, tant elle suscite de l'émotion, de la frustration, de l'odeur et de l'effroi, se termine cet épisode numéro 1 de 2017 du Narvalo. Mais que s'est-il donc passé ? Y a-t-il eu un bug de l'an 2017 dans le pouvoir d'indignique de Yodend ? Pourquoi ça sent la ménagerie ? Si les dindes ont des pouvoirs magiques, pourquoi elle n'évite pas l'hécatombe de Thanksgiving? Pour le savoir, rendez-vous dans un mois à quelques heures, minutes, secondes près, à la même heure donc, le 23 février.
Je suis assis sur un banc au milieu d'une rue et j'ai froid, à une partie de mon anatomie qui rime avec rue. Mais pourquoi installe-t-il dorénavant des bancs en métal ? Le bois c'était quand même mieux, ça serait quand même pas pour éviter que des clochards s'y installent. Et il mettrait pas des accoudoirs au milieu des bancs pour pas qu'ils puissent s'en servir de couchette ? Bah non, je vais pas commencer à être cynique. Surtout qu'au bout d'un moment, on s'y fait au métal gelé. Je sens plus le froid sur la partie de mon anatomie qui rime avec rue. En fait, je sens plus rien du tout. Me voilà anesthésié du séant. Ça fait maintenant quelques heures que je suis assis sur ce banc. Je suis calme, détendu, immobile. Bon, en réalité, je suis juste tétanisé par le froid. Et dans un effort surhumain, je tourne la tête et je me rends compte qu'il y a quelqu'un assis à côté de moi, avec un chien qui tremble près de lui. Me voyant frigorifié, il me tend une bouteille de vin rouge et m'en propose, histoire de me réchauffer. J'accepte. Bon, c'est pas très bon. Je lui rends la bouteille. Il en prend un peu et il en verse dans la gamelle de son chien. Et il me demande si ça fait longtemps que je suis à la rue. Je lui réponds que ça doit bien faire 3 heures que je suis sur ce banc. Et je lui demande, lui, depuis quand il est à la rue ? Il me dit que ça fait près d'une demi-heure. Je lui réponds, c'est bien, c'est bien. Il me dit, oui, c'est bien. Comme dit le nouveau président, c'est la liberté. Et là, j'acquiesce. Et je lui dis, oui, il était temps que ça change. Il était temps qu'on soit enfin vraiment libre. Il me répond, c'est sûr, libre de plus avoir de logement ou de travail, de plus toucher de retraite, de plus soigner. surtout de libre de plus avoir d'argent. On est vraiment libre maintenant. Bah, j'acquiesce de nouveau et je lui dis, bah, c'est quand même moins de soucis.
Pour la minute du pôle, on voulait parler des travaux du docteur Furtos sur l'exclusion et la précarité. On a trouvé un article qui parle d'un de ses bouquins qui s'appelle « De la précarité à l'auto-exclusion ».
Alors d'abord, il y a la précarité ordinaire, ou plutôt originaire, dont le modèle est la précarité du bébé qui dépend d'autrui pour survivre. Cette précarité fait surgir les relations. Lorsque les réponses physiques sont adéquates, cette précarité s'appelle la confiance. La deuxième forme de précarité est celle de l'homme moderne, dont l'existence ne repose sur aucun fondement stable et hétéronome. Elle fait partie de la grandeur de la difficulté de l'homme moderne. Enfin, la troisième forme de précarité est celle pathologique, qui est la source du syndrome d'auto-exclusion que Jean Furtos a longuement étudié. Elle est portée par le capitalisme financiarisé mondial. Même si l'auteur insiste sur l'amoralité des flux et des échanges marchands, la transformation de la temporalité et son urgentification apparaissent comme un processus destructeur des solidarités.
Les sociétés précaires sont des sociétés obsédées par la peur de la perte. On retrouve ici les accents de la critique faite par Robert Castel de l'inflation sécuritaire et de l'aversion totale envers le risque qui se déploie dans les sociétés les plus sûres de l'histoire. La perte des sécurités, comme dans l'Argentine des années 90, est à l'origine de la souffrance psychique d'origine sociale dont, selon Furtos, Freud parlait déjà en 1929 dans « Malaise dans la civilisation ». Dans cette société précaire, le fait de savoir que l'on peut demander de l'aide et que l'on peut se débrouiller même dans des situations difficiles est un signe de santé mentale. Être précaire au bon sens du terme, c'est être capable de demander de l'aide. La mélancolisation ou le fait de ne plus y croire est la deuxième modalité de la société précaire. Le syndrome du survivant illustre ce deuxième cas de figure. Même les salariés qui ont échappé à un plan social ne croient plus dans l'avenir de leur entreprise ni dans le leur. Même s'ils résistent dans les faits, ils s'effondrent dans leur tête. La triple perte est opérée. Dans les cas les plus extrêmes, le syndrome d'auto-exclusion se développe.
En conclusion, nous espérons que cette heure passée en notre compagnie vous aura paru éclairifiante. Nous remercions encore une fois Madame Pauline Devaux, directrice de l'association Accueil Service, qui a bien voulu répondre à nos interrogations sur les personnes qui vivent à la rue. Et je vais passer la parole à Karim.
Bonjour, Biata. Bonjour tout le monde, la classe. La maison de quartier, bibliothèque. C'est moi, Monsieur Karim.
Nous remercions également toute l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de Principe Actif, le très urbain JC, Damien, le boss de la street, et Timothée, le boss des Quality Street. Prochaine émission le jeudi 23 février de 12h30 à 13h30, toujours sur Principe Actif. Si vous souhaitez nous réécouter, n'hésitez pas à rechercher nos podcasts sur principeactif.net à la page d'Ozone Libre. Il est à présent 13h30, en conséquence, nous n'avons pas d'autre choix que de rendre l'antenne avant l'arrivée du GIGN. Et oui, on ne fait pas ce qu'on veut, à la prochaine si on le peut.
Si on vous dit vivre à la rue, à quoi pensez-vous ?
Injustice. Difficulté, froid, malheur.
À la pauvreté. La pauvreté, c'est aller au resto du cœur, le truc humanitaire.
Sans emploi, sans domicile, malchanceux.
Bah, à la détresse.
Bah, vivre dehors, être un SDF.
C'est, pour moi, c'est être démuni de tout. Et puis... On est bien que la société ne fait pas grand-chose pour ces gens-là.
Bah, en ce moment, il fait froid pour ces gens-là. Voilà.
Vive à la rue, oui. SDF alors oui. SDF
oui.
C'est pas intéressant. Hein. Je ne vais pas aimer être SDF, moi.
Vivre à la rue, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est galère, clairement. Vivre dans la rue... tout de suite, on pense aux conditions des gens, on pense tout de suite à la difficulté que des gens peuvent rencontrer à un moment pour s'insérer dans la société, et peut-être qu'effectivement ils sont dans la rue, pas forcément par choix, mais peut-être malheureusement par dépit.
D'après vous, savez-vous quelles aides existent quand on est à la rue ?
Je vais revenir sur la même chose, je veux dire le secours populaire,
les vêtements, les duvets, la poisson chaude, le café, le...
Je pense qu'il y a des lieux d'accueil en ville. Autrement, je ne sais pas. Des lieux d'accueil.
Oh, pas énormément, non, je ne sais pas.
Vous n'avez pas une petite idée
À part les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, des organismes comme ça.
Je suis infirmière, mais j'en connais quelques-unes. J'en connais quelques-unes, après, peut-être pas toutes, ça c'est sûr.
À part les Restos du Cœur, puis après, il y a d'autres associations que je ne connais pas le nom.
Par rapport à ça, oui, il y a la mairie, puis il y a d'autres associations qui les aident aussi, voilà.
Oui, je sais, il y a les services sociaux, il y a le 115, je crois.
Oui.
Le 115, ouais.
Je crois que les aides qui existent pour les personnes qui vivent à la rue, c'est sont pas suffisants.
Alors oui, les aides, on sait, bah, effectivement, il y a le 115, après je pense qu'il y a toute la partie... assistantes sociales, centres sociaux, qui sont à mon avis aussi à disposition des gens qui sont dans la rue. Malheureusement, ce qu'on peut entendre dans les médias et un peu partout, je pense que on n'a pas assez de lieux d'accueil pour les gens qui sont justement dans cette précarité-là. Oui.
Quel regard vous portez sur ça justement, sur les personnes qui vivent à la rue? Vous, ça vous fait quoi?
Alors, je vais être encore plus clair. Je fais partie de bénévoles du Resto du Cœur. Tous les 3 jours par semaine, je vais au Resto du Cœur à Évreux et je suis bénévole pour aider les gens qui sont dans le besoin, justement.
C'est difficile à résumer. Je me pose des questions parfois. Est-ce qu'il y a une part de choix personnel ou pas? Parce que probablement, parfois, il y a un refus de la société, mais je pense qu'en général, c'est l'aboutissement de difficultés et que... On aimerait bien que sur leur route se soit trouvé des gens pour les aider un peu plus.
C'est triste à notre époque. Ça ne devrait pas exister.
C'est sûr qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais je me dis que ce qu'on peut faire, il faut le faire. Je me dis que personne ne mérite en tout cas d'en arriver là, quoi. Quand c'est possible, je dirais. D'aider, c'est pas grand-chose, hein, mais...
Dans votre travail ou même en
dehors ? Pas forcément dans mon travail. Enfin, dans mon travail, si. On a d'autres actions, parce que moi, je travaille à l'hôpital de Navarre, et c'est vrai que ça nous arrive d'accueillir des gens sans abri. Alors après, parfois, il y a des projets qui se mettent en place, donc forcément, ça prend plus de temps. C'est pas tout à fait les mêmes moyens qu'on emploie. Après, moi, quand je passe dans la rue... Bien sûr que ça touche. Enfin, on peut pas passer comme ça, comme si de rien n'était. On peut pas aider tout le monde, ça, je vais pas vous le cacher. On peut pas. Il faut aussi, je dirais, nous survivre. Mais par exemple, je sais pas, acheter un sandwich ou un café avec un croissant. Moi, je préfère faire ça que de donner de l'argent, par exemple. Mmh. Voilà. Parce que
moi,
je sais bien que...
Bien, donner de l'argent,
Donner de l'argent quand on sait qu'il y a des conduites de dépendance par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, par rapport à... Sinon, ça ne va pas résoudre, je dirais, le sort. Après, j'y pense de temps en temps. Je me dis, comment je pourrais faire d'autre? Je ne sais pas, orienter vers un foyer, orienter... Oui. En tout cas, j'essaye. Et puis, je grandis. Donc, peut-être que j'aurai d'autres moyens. Je dirais d'autres... Enfin, peut-être que j'oserai davantage, en grandissant, je sais pas, moi, discuter et demander... Enfin, chercher à savoir ce qu'on peut faire pour ces gens-là, individuellement. Hein, je veux dire, croiser quelqu'un dans la rue et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mis à part donner à manger. Bien sûr que ça fait partie de la survie, mais après ça... Après ça, il reste dans la rue, par exemple, et voilà. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être riche, en tout cas, pour aider. Mais en même temps, c'est paradoxal. On ne peut pas aider tout le monde, ça c'est une certitude. On ne peut pas aider tout le monde personnellement, chacun. Il faudrait que tout le monde mette du sien, en fait, pour moi. Tout le monde, dans la société, ils mettent du sien.
C'est des... les pauvres, quoi. Ils n'ont pas de chance, quoi. Ils n'ont pas de logement, peut-être pas de famille. C'est une situation difficile, triste.
Un regard de tristesse, parce que j'estime qu'on ne doit pas, surtout en 2017, on ne doit pas laisser les gens à la rue. Ça n'a pas existé. pour moi, ça ne doit pas exister. Tout le monde a le droit d'avoir un logement, avoir de la chaleur, aussi bien la chaleur humaine, et puis avoir, au moins avoir un petit boulot.
Mais moi j'essaie de leur parler, même si je leur donne pas tout, je leur parle, quoi. Une question de respect, quoi.
Ah ben, je suis très attristé pour eux, hein. C'est pas... Je voulais pas les mettre à la rue, c'est pas intéressant du tout, hein. C'est pas une bonne chose.
Ça fait mal au cœur.
Le regard, c'est toujours difficile, on a toujours malheureusement un pincement au cœur, on est toujours... On est forcé de constater qu'on voit des gens qui sont plus insérés justement dans notre société, qui sont malheureusement exclus. Voilà, le regard, c'est pas un mauvais regard qu'on peut porter. Je pense qu'on peut porter même de l'attention justement vis-à-vis de ces gens-là parce qu'à un moment, voilà, on est chez nous, on est le soir tranquille. Il fait, quand on voit les températures qu'il peut faire en Haute-Normandie en ce moment. Ouais, très clairement, on pense à ces gens-là, on se dit, quelles sont les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, ouais.